Vous êtes bien sûr Radio Prune en compagnie d'Anna et Sylvia et leur émission Au fil des sons, tous les deuxièmes jeudis de chaque mois de 13h à 14h. L'idée de l'émission Au fil des sons est une conséquence de la crise sanitaire que nous avons connue durant cette période de confinement. Nous avons tous pu observer une diminution, voire une suppression des bruits extérieurs tels que ceux de la circulation automobile, des divers travaux urbains, du trafic aérien pour n'en citer que quelques-uns. Cela nous a permis de redécouvrir, de savourer et de se concentrer sur des bruits et des sons plus discrets que l'on avait pu occulter comme ceux issus de la nature environnante qui a alors repris ses droits au milieu de ces temps de silence devenus si rares dans le tourbillon tonitruant du XXIe siècle. Après le micro-trottoir du mois qui débute l'émission, Anna et Sylvia interrogent les sons et les bruits naturels ou urbains afin de les mettre en perspective avec des musiques venant de tout horizon. Ensuite, les musiciens ou les partenaires culturels et artistiques de notre région s'expriment sur leurs ressentis face au contexte sanitaire atypique qu'ils traversent et évoquent leurs adaptations et solutions pour continuer à faire vivre la culture. La rubrique Regard pluriel est l'occasion pour leurs invités surprises d'échanger sur les rappeurs à la musique et au son. Et pour conclure, Anna et Sylvia vous présentent leur coup de cœur du mois.
Bonjour Anna.
Bonjour Sylvia.
Nous sommes ensemble pendant une heure dans Au fil des sons, l'émission de Prune, qui nous éclaire sur les sons et les bruits qui nous entourent.
Ce mois-ci, dans Au fil des sons, nous nous consacrons en partie à l'univers des sons annonciateurs d'une arrivée ou d'un départ. Nous quittons 2020 pour s'embarquer vers 2021.
Comme vous tous, nous espérons que tous ceux et celles qui œuvrent au quotidien pour le bien-être de tous et toutes trouvent des solutions durables pour éradiquer ce maudit virus qui a bousculé nos vies et modifié nos façons de vivre ensemble.
Au fil des cœurs pour 2021.
Et aujourd'hui, nous recevons Miss Machine, jeune chanteuse pop-rock de la scène nantaise que nous sommes heureuses de vous faire découvrir pour celles et ceux qui ne la connaissent pas encore.
Également, notre invitée surprise nous livrera son regard sur cette période de confinement vécue de mars à mai, puis depuis fin octobre 2020 jusqu'à aujourd'hui.
Au fil des sons, c'est donc parti avec notre micro-trottoir de janvier qui sera ce mois-ci nantais et parisien.
Capture de voix dans Au fil des sons.
Que représente la musique pour vous ?
Toute ma vie.
La musique, pour moi, ça représente un des moments de calme, de concentration, voire d'évasion. Commencer à rêver en regardant les décors, les paysages autour de moi.
Un peu de ma vie.
La musique représente pour moi un moyen d'évasion, de sortir du quotidien qui nous entoure et de permettre à l'esprit de rêver.
Quelle place la musique tient-elle dans votre vie ?
Alors depuis l'âge de mon adolescence, elle tient une place très très importante. J'en écoute pratiquement tous les jours. J'ai pas mal de vinyles. J'ai su garder mes vinyles, moi. Et voilà. J'aime le contact de la pochette de vinyle.
Pourquoi dites-vous « j'ai su garder mes vinyles, moi » ?
Parce qu'à une époque où le CD a fait irruption, beaucoup de gens ont vendu leurs vinyles, bêtement. Et maintenant, tout le monde en rachète et tout le monde retourne à des vieilles platines avec l'art de mettre son vinyle sur sa platine, car le son est nettement meilleur.
La musique, le matin, en général. J'aime beaucoup démarrer par des instants plutôt radio, jazz, quelque chose qui me met, je dirais, de bonne humeur et qui me donne de l'énergie. Ça, c'est le moment important. Et ensuite, plutôt le soir, des moments de calme. Ce sont les deux moments de la journée où la musique est importante pour moi.
70%.
50%.
Donnez-nous votre définition de la musique.
La joie.
La même chose.
Alors, la musique, j'ai une définition citerai de mémoire, je crois que c'est Baudelaire. C'est un peu pompeux peut-être comme proposition, mais bon. Je me souviens d'une phrase, « La musique creuse le ciel ». J'avais bien aimé cette définition, donc si je ne me trompe pas, ça doit être de Baudelaire.
Eh bien, la musique, comme la littérature ou le cinéma, c'est un bon moyen, c'est un bon moyen de nous permettre pour nous évader, nous changer notre quotidien, rêver.
Si vous aviez à fredonner un air de musique, quel serait-il ?
Ma poupée chérie. Ma poupée chérie ne veut pas dormir. Petit ange, viens, tu me fais souffrir. Ferme tes doux yeux, tes yeux de saphir. Dors, poupée, dors, dors, où je vais.
Il naviguait en père peinard sur la grande mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord.
Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord.
Alors là, j'ai d'un seul coup un air qui me vient en tête, je ne sais pas pourquoi, puisque je n'ai pas écouté récemment. C'est l'air du pont de la rivière Kouaï. Le sifflement, la petite chanson qui accompagne le film. Et voilà.
Là, comme ça, tout de suite, nous fredonner un petit air de musique que vous aimez bien.
Alors, c'est un morceau, je parlais de mon adolescence, je crois que je devais avoir 17 ans, je chantais ça avec un super copain qui jouait très bien de la guitare et on chantait au Pouliguen sur la promenade, là, en faisant la manche, et on chantait cette chanson de Neil Young. I sing a song because I love the men. I know that some of you don't understand. The damage done.
Merci.
Merci.
I caught you knocking at my cellar door. I love you, baby. Can I have some more? Ooh, the damage done.
Atmosphère, atmosphère. Est-ce que j'ai bien entendu ? Atmosphère sonore ?
Pour cette émission, on a choisi de vous parler de l'univers des sons annonciateurs d'un départ ou d'une arrivée, alors même que nous subissons depuis plusieurs mois, en raison de la crise sanitaire que nous traversons, des mesures liberticides qui nous empêchent de nous rassembler, de nous retrouver, de nous déplacer. Ces restrictions de nos libertés individuelles sont d'autant plus difficiles à vivre car, comme l'écrivait Blaise Pascal, tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre. Et c'est bien ce à quoi nous devons nous résigner depuis presque un an.
Cette première captation retrace le jingle de la SNCF. Un jingle en quatre notes, do, sol, la, mi, que vous connaissez forcément. Depuis 2005, il retentit dans nos gares françaises pour précéder les annonces faites aux voyageurs comme l'arrivée d'un train, une information sur un retard ou toute autre information importante. Si la plupart des usagers des chemins de fer français ne font pas attention au petit jingle, cela n'a pas été le cas de David Gilmour, le guitariste de Pink Floyd. En voyage en France, il est tombé amoureux de la petite mélodie en gare d'Aix-en-Provence, au point de s'en inspirer pour composer un morceau de son quatrième album en solo, Rattle That Lock, sorti en 2015.
Le groupe The Nits propose une très douce variation ferroviaire, The Train, dans leur album Hat, sorti en 1988, et que nous avions pu voir au Panonica à Nantes au début des années 2000. On se laisse plonger dans cet univers enveloppant de la découverte de l'ailleurs.
Cette deuxième captation, je l'ai réalisée alors que j'arrivais sur l'île de Groix, après être partie de l'Orient. 45 minutes de traversée pour arriver sur une île conviviale, authentique, avec ses 17 villages. La montée vers le bourg offre au regard ses belles maisons d'armateurs et le cinéma des familles, façade décorée et colorée par des artisans italiens qui donnent à l'ensemble une atmosphère pimpante et rassurante. Ces dernières rayonnent autour de l'église, la seule de France ayant troqué son coq pour le fameux thon qui orne son clocher, symbole de toute une époque où la pêche thonnière a laissé des marques profondes. On peut découvrir à son rythme les landes à bruyères, vagabondes des littoraux de l'ouest de l'île, nommées Piwissi, ou les plages blanches et rouges de Grenat de l'est de l'île, communément appelées Primitures. Bref, cette île est une source infinie d'émerveillement.
Revenons au choix de la chanson « Night Boat to Cairo » du groupe de ska pop britannique Madness, chanson tirée de leur premier album en 1979 intitulé « One Step Beyond ». On y entend au démarrage de la chanson le bruit d'une sirène d'un bateau réalisé par le compositeur et saxophoniste Lee Thompson avec l'aide de son instrument. On retrouve dans ce titre toute la folie du groupe qui porte bien son nom. Ce morceau est d'ailleurs souvent utilisé par Madness pour fermer leurs concerts en direct. La chanson a une structure inhabituelle avec un seul long couplet suivi d'une section instrumentale encore plus longue, fortement basée sur le saxophone et une absence de refrain. Cette atmosphère nous emmène dans un tourbillon voyageur.
Ni Anna ni moi n'avons eu pour l'instant l'occasion d'aller dans l'espace, mais au rythme où vont les choses, on y pense fortement. Vous comprendrez bien que nous n'avons pas pu faire cette captation en direct. Musicalement, c'est une chanson de David Bowie, l'extraterrestre de la pop qui s'est imposée à nous. En 1968, le jeune Bowie, alors âgé de 21 ans, se rend à plusieurs reprises dans un cinéma de Londres pour voir 2001 A Space Odyssey de Kubrick, sorti cette même année. Le film est une révélation et va lui inspirer son premier album, Space Oddity, et son alter ego Major Tom, astronaute fictif, qui apparaît dans cet album. On en écoute un extrait.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 7, 6. Commencing countdown, engines on. 3, 2. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. Stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way, and the stars look very different today. For here am I sitting in a tin can.
Il enregistre le titre dans la foulée en 1968 comme bande-son d'un film promotionnel qui fait un bide intersidéral. En 1969, le titre est réenregistré à l'occasion du décollage de la fusée Apollo 11, programme spatial américain de la NASA. Un événement historique dont veut profiter la maison de disques qui vient de signer David Bowie. Space Oddity est retravaillé et sort le 11 juillet 1969, soit 10 jours avant que Neil Armstrong pose ses Moon Boots sur la Lune. Les radios américaines ne sont pas intéressées, contrairement à la BBC qui retient le morceau de musique pour accompagner et illustrer l'exploit américain du 21 juillet 1969. Un énorme coup de pub pour David Bowie, rempli d'ironie.
Space Oddity raconte en effet l'histoire d'une mission spatiale qui tourne mal. Dans la chanson, Major Tom perd le contrôle de son vaisseau, décroche et se retrouve à errer dans l'espace. David Bowie dira que l'homme qui a choisi le titre pour la BBC ne l'avait probablement pas écouté jusqu'à la fin. Nous retenons également l'attention toute particulière que David Bowie a eue dans le choix de la pochette originale du morceau.
On y voit le visage du chanteur sur un arrière-plan fait de disques bleus sur fond vert. Un visuel directement inspiré d'une œuvre du peintre français d'origine hongroise Victor Vasarely, un des grands maîtres de l'art cinétique qui se plaît à modifier notre perception d'une image fixe comme si cette dernière bougeait. Toutes ces techniques jouent avec les illusions d'optique et s'accordent en tout point avec l'esthétique de l'ère psychédélique des années 1960-1970 où l'usage des psychotropes, quels qu'ils soient, nous amène à percevoir ce qui n'existe pas grâce aux fantasmes nés de notre imagination. À relever, l'audace d'illustrer en 1969 la conquête américaine de l'espace avec un artiste issu du bloc soviétique.
Et voici l'interview du mois dans l'émission Au fil des sons sur Prune 92 FM et en DAB+ sur Saint-Nazaire en compagnie de Sylvia et d'Anna.
Nous tenons à préciser à nos chères auditrices et auditeurs que cette interview est enregistrée le vendredi 8 janvier 2021 au lycée Talensac à Nantes. Bonjour Miss Machine.
Bonjour Anna, bonjour Sylvia. Merci d'avoir accepté, Miss Machine, notre invitation à Au fil des sons sur Prune 92 FM. Alors, vous êtes une jeune musicienne nantaise, à la fois pianiste et guitariste, qui oscille entre un univers pop et rock. La douceur et la suavité de votre voix apportent un contrepoint à l'agressivité des guitares électriques et des sonorités électroniques. Tout d'abord, afin d'entrer dans votre univers, comment et pourquoi vous êtes venue à ce choix de pseudonyme Miss Machine ?
Miss Machine, c'était l'idée d'avoir un nom de personne ou de personnage qui ne soit pas un nom de groupe, parce que même si je fais de la pop, de la pop-rock, un style de musique qui est plutôt fait généralement par des groupes, là, c'est l'idée d'avoir un individu particulier et en même temps de ne pas le faire, de ne pas chanter sous mon nom, pour pas avoir, parce que j'associais cette démarche à la démarche de la chanson française et je voulais pas que ce soit Héloïse, et donc plutôt m'inscrire dans un côté, voilà, entre le groupe et la personne, mais quand même pop rock.
Merci. Et alors, quel a été votre parcours musical, en fait? Qu'est-ce qui vous a poussé à franchir ce pas de la scène, armé de votre voix et puis accompagné de votre guitare électrique ou parfois de votre piano?
J'ai appris un peu la musique, j'ai fait un peu de piano quand j'étais enfant, j'ai appris la guitare, et puis dès que j'ai appris la guitare, je m'en suis servie pour... Je jouais très mal, et je faisais des petits morceaux, et c'est très très agréable de composer, c'est très bien, et donc je pense que c'était... Voilà, et puis j'ai toujours vu beaucoup de concerts quand j'étais petite, il y avait de la musique autour de moi, donc je pense que c'était assez naturel d'aller vers la musique, et je ne regrette pas parce que c'est très agréable, c'est très bien.
Vous dites toute petite, c'est-à-dire à partir de quel âge vous êtes-vous mise à la musique, au piano?
Le piano, j'étais peut-être au collège, mais la guitare assez tard, en fait, au lycée. Et donc, dans la foulée, j'ai commencé à faire mes morceaux. Et c'était plutôt du travail de composition, c'est ça qui m'intéressait, plutôt que d'apprendre à faire des... Je ne sais jouer aucun morceau, sauf les miens. J'ai pas appris de reprise. Voilà, c'est...
Donc une grande part laissée à la créativité.
Oui, voilà, c'est ce qui me plaisait dans la guitare.
Et vous êtes allé donc à de nombreux concerts, vous nous dites, quand vous étiez jeune.
Ben oui,
vous y êtes allé un petit peu plus tard, finalement.
Non, même très petite. En fait, mes parents m'emmenaient à plein de concerts. On allait à des festivals l'été, donc c'était très fréquent. Et du coup, voir des gens sur scène, ça faisait très envie, évidemment. C'est très cool. Et puis l'ambiance de scène, enfin, maintenant on connaît plus trop ça en ce moment, mais c'est vrai que c'est quelque chose quand même de différent que d'écouter un disque ou d'écouter une chanson comme ça. Et donc cette puissance là que ça apporte, pour moi c'était vraiment quelque chose.
Alors, en vous écoutant, quelques noms de la scène française ou anglo-saxonne nous viennent à l'esprit, comme celui de Vanessa Paradis. Mais pour vous, Miss Machine, quelles sont vos influences musicales?
C'est plutôt de la pop-rock anglaise des années 90, mais maintenant un peu plus large. Et c'est vrai que Vanessa Paradis revient assez souvent. Je pense que c'est peut-être la petite voix un peu plus légère. Et puis elle a des chansons qui sont quand même pop-rock des fois.
Oui, je crois.
Je prends avec grand plaisir.
Bien. Et alors, quelles sont vos influences anglo-saxonnes des années, vous nous avez dit, donc 90?
Oui, plus récemment, il y a les Arctic Monkeys qui sont très... Moi, j'ai écouté beaucoup ça, je pense pas que ma musique y ressemble.
Oui.
Mais après, autrement, c'était... Moi, j'aimais beaucoup... j'aimais bien Oasis, j'aimais bien Pulp, des choses comme ça, ou Blur, Gorillaz, tout ça.
Oui.
Et voilà, après, je pense que vraiment, je fais plutôt quelque chose qui ressemble à du rock des années 90, du rock français. Et sauf que je ne connaissais pas avant qu'on me fasse souvent remarquer l'affiliation avec Dolly, souvent on met ça en rapport, et je ne connaissais pas. Et c'est vrai qu'en fait, je comprends là aussi. Mais je pense que oui, ça ressemble peut-être plutôt à du rock français, en fait. Normal.
Et vous nous dites, ce qui vous plaît, en tout cas, c'est la part de création. Créer vos morceaux, créer donc vos chansons. Et donc, quelles sont vos inspirations? Comment vous y prenez-vous concrètement pour écrire et composer un morceau? Alors, la page blanche, il y a un rythme qui arrive, comment ça se passe?
Souvent, je joue de la guitare et puis je chante dessus. Quand je trouve une mélodie, donc je chante n'importe quoi. Voilà, après je fais les morceaux petit à petit, donc je construis sur mon ordinateur, j'enregistre des choses. Mais après, il y a les paroles qui viennent soit pendant, souvent en dernier, en fait. Et là, c'est plutôt exprimer en fait des frustrations ou des choses qui m'énervent, et des fois avec des fois en fait c'est plutôt de la littérature qui va me donner des idées. En fait il y a des images que j'ai trouvées très belles et ça va me donner envie de faire des variations là-dessus. C'est, je raconte pas vraiment des histoires, mais c'est plutôt un peu flou, pas très, c'est pas forcément clair, mais voilà, c'est plutôt d'exprimer des sentiments, plutôt des frustrations.
Est votre tout premier EP, hein, donc un format musical entre l'album et le single. Il est disponible depuis le 28 septembre dernier, en CD et sur toutes les plateformes d'écoute et de téléchargement. Pourquoi ce titre, Tout autour, qui est aussi une chanson éponyme de cet album?
Oui, c'est parce que c'était le premier morceau de l'EP, donc je voulais pas donner un autre titre à mon EP. Je me disais, bon, c'est peut-être un peu prétentieux, on restait, je donne le même titre de la première chanson. Et puis c'était une chanson que je pense qui est peut-être la plus importante pour moi de l'EP. C'est la seule chanson qui est un peu plus politique, et quand les autres sont plutôt expressives. Et donc c'est une chanson sur les choses, les gens, plutôt les choses qui prennent un peu trop de place autour, dont on aimerait bien voir réduire la part qu'elles prennent. Et donc, ça peut être, voilà, moi, je pensais au plastique, je pensais à l'industrie de la viande, ça peut être le patriarcat, ça peut être un peu ce qu'on veut, mais c'est plutôt une, voilà, une critique de choses qui prennent trop de place.
Et de la société dans laquelle nous vivons.
Alors, les trois autres titres sur cet album se dérivent ainsi, De quoi j'ai l'air, Mousson et Faux contact, que nous écoutons.
Alors, la relation avec l'autre tient une place importante dans vos textes. Quels sont vos thèmes de prédilection et quelle place les messages ont-ils dans vos chansons, Miss Machine ? En d'autres termes, une chanson est-elle porteuse d'une forme d'engagement ?
Je ne sais pas en tout cas, si moi j'ai un grand engagement, à part en effet la première chanson qui est la plus critique politique. C'est plutôt autrement des chansons. Voilà, Mousson, c'est une chanson sur la colère, sur les émotions qui débordent. C'est plutôt des critiques de soi, de quoi j'ai l'air. Ça va être le faux changement, souvent superficiel, de surface, quand en réalité, le caractère. Donc Mousson, de quoi j'ai l'air, c'est un peu la même idée du caractère qui reste en fait le même et qui reste mauvais. Après, voilà, c'est vrai qu'il y a j'ai des thèmes un peu plus relationnels, quoi, comme vous dites. Faux contact, c'est une chanson plutôt... sur la conversation qui ne passe pas. Et c'est vrai que je parle beaucoup à la première personne. Des fois, c'est pour dire des choses sur moi. Des fois, c'est aussi pour pouvoir dire des choses un peu plus dures sans dire les gens, ils font mal. Ou, voilà, pour faire généraliser, je trouve qu'il y a des travers qu'on a un peu tous. Et donc, c'est plutôt voilà, partir là-dessus.
Depuis 2019, date à laquelle vous avez eu vos premières expériences avec la scène, vous vous êtes produite une trentaine de fois dans de nombreux bars et salles de la région nantaise. À l'heure où toutes les salles de spectacle ont fermé leurs portes depuis le vendredi 13 mars 2020 pour la majeure partie d'entre elles, à l'heure où les bars sont encore fermés, et ceci sans doute jusqu'au 20 janvier et même au-delà, quels sont les moyens que vous utilisez pour continuer à garder du lien avec votre public ?
C'est vrai que pour l'instant, c'est pas facile. C'est plutôt par les réseaux sociaux, par... Les gens, le public est, le petit public est très sympa et très gentil, donc les gens prennent des nouvelles, donc il n'y a pas vraiment de difficulté, ça se fait bien. Et puis il y a des interviews comme ça, il y a qui servent en fait aussi à continuer à faire parler, à faire vivre le projet, et ça c'est super important, donc c'est très bien. Mais c'est vrai que ça sera beaucoup, beaucoup mieux, je pense, quand les concerts pourront reprendre, et ça sera avec une grande joie.
Ça va arriver.
Alors, on écoute un troisième titre de Quoi j'ai l'air. État, c'est un nouveau débat. Vas-tu t'y faire? Mais vraiment, de quoi j'ai l'air? De nouveau sous le tonnerre. Dans ce contexte sanitaire particulier et difficile pour la culture et les artistes, de quoi avons-nous l'air? Et quels peuvent être les projets, les envies d'une jeune chanteuse comme vous, Miss Machine?
Les projets, les envies, que tout puisse... que tout puisse... exubérant, mais que tout puisse redevenir un peu plus comme avant, peut-être qu'on prenne conscience aussi, je trouve qu'il y a eu quand même plein de diminutions à des avions, un truc comme ça, c'était pas mal, mais qu'on puisse refaire des concerts, que la culture puisse reprendre, même les musées, tout ça, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens là pour qui c'est très, très, très compliqué, et les aider un peu plus, quoi.
Alors, la musique tient une grande place dans votre formation, mais également la philosophie. Vous nous avez dit que vous êtes doctorante actuellement et que vous travaillez sur l'intelligence artificielle. Alors, quelle place la musique aura-t-elle dans l'intelligence artificielle?
Pour ce qui concerne mon sujet de thèse, je ne sais pas. Mais c'est voilà. Enfin, je ne sais pas si je parlerai de la musique dans ma thèse. C'est des trucs que je sépare un peu. Mais c'est vrai que c'est en tout cas, faire une thèse en ce moment, c'est bien pour s'occuper quand on ne peut pas faire des concerts. Ça fait que c'est pas, pour moi, c'est pas difficile de continuer à vivre normalement. Enfin,
oui, on dit souvent que le travail de thèse est un travail de taupe où on s'enferme pendant trois années avec une multitude de livres, confiné ou pas, vous êtes au travail.
Donc bon, ça c'est bien, ça c'est de mon côté.
Très bien. Eh bien, un grand merci à vous, Miss Machine. Vous pouvez suivre toute l'actualité de Miss Machine sur vos sites Instagram, Facebook, Twitter.
Regard pluriel avec l'invité surprise de l'émission Au fil des sons.
Cette interview a été réalisée le 12 juillet 2020 au Moutier-en-Ré.
Aujourd'hui, nous recevons Gilles Martinez, archiviste au ministère de l'écologie, résidant dans la ville d'Orléans. Bonjour Gilles.
Bonjour Anna.
Alors Gilles, on se rend compte que chaque ville, chaque situation familiale, chaque histoire a pu trouver pendant cette période, des échos différents avec ce temps de mise à l'écart physique du monde que nous avons connu. Durant cette année 2020, entre le mardi 17 mars au matin et le lundi 11 mai. Tout d'abord, Gilles, aviez-vous anticipé, vous qui travaillez dans un ministère, aviez-vous anticipé ce temps de confinement que nous avons connu?
Eh bien non, pas du tout. J'étais comme beaucoup de collègues à écouter les médias. Et pour nous, l'épidémie était dans un pays lointain qui s'appelait la Chine. Et jamais on a pensé, je dis « on », je parle pour moi également, mais bon, en tout cas, une petite communauté de personnes avec qui on échangeait tous les jours, on se disait que l'épidémie était vraiment très très loin et que jamais elle n'atteindrait l'Europe.
Alors, quand elle est arrivée en Italie...
Voilà, quand elle est arrivée en Italie, là, évidemment, les choses ont un peu changé. Mais il y a eu, comme toujours, dans les sociétés, les personnes qui se fréquentent régulièrement, des avis divergents. Et donc, il y avait ceux qui ont commencé à avoir peur du virus, et puis ceux qui, évidemment, fanfaronnaient en disant que même pas peur du virus.
Et qu'il donc, allait rester en Italie.
Voilà, et qu'en France, on était quand même bien équipés, et que les choses... allait plutôt être réglé rapidement.
Donc le discours le lundi 16 mars de notre président a été perçu comme complètement un scud, une bombe.
Alors pas complètement, puisque il y a eu deux annonces, le jeudi et le lundi.
Oui.
Alors si le lundi en effet a été l'annonce principale et celle qui a un petit peu bouleversé les choses, c'est le jeudi que j'ai pris conscience que les choses devenaient graves. Et je dirais que moi, je me suis mis en mode confinement dès le jeudi soir. C'est-à-dire que le jeudi au travail, on était encore un petit peu dans l'insouciance, et le jeudi soir, au moment où j'ai vu le président, enfin, j'ai écouté le discours du président, je me suis dit, ça y est, là, les choses vont changer. Et le vendredi matin, je suis allé au travail.
Le vendredi 13 mars.
Voilà. Mais je n'ai pas travaillé. J'ai été, comme je suis archiviste de métier, il me restait des masques de H1N, ce qu'on appelait nous les masques H1N1, commandés à l'époque pour la pandémie du H1N1, que l'on avait en réserve, puisque dans les locaux qui sont un peu poussiéreux et un peu malsains, on a besoin d'avoir ce type de masque. Donc j'ai pris une boîte entière de masques sous le bras, j'ai pris une ramette de papier A4 sous le bras également. Et donc en me disant, je vais avoir besoin de papier parce que je vais écrire.
Pendant cette période.
Donc le masque et le papier, pour moi, c'était les deux éléments fondamentaux.
Pour
préparer au confinement. Et je suis reparti du travail, presque en très peu de temps après, en me disant, je vais comme dans un embryon anti-atomique. Je suis parti pour un certain temps, je ne sais pas combien de temps ça va durer.
D'accord.
Mais complètement, mon comportement a changé, mais complètement en l'espace d'un discours, quoi. C'est-à-dire que j'ai passé de l'insouciance à là, il faut se protéger.
À l'extrême. Voilà. Alors, est-ce que c'était dû aux propos particulièrement violents utilisés par notre président, son discours guerrier, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, ou pas du tout, qu'est-ce qui, à votre avis, a modifié votre comportement en passant du tout au tout, finalement?
Oui, c'est-à-dire que j'ai compris que le pays allait être vraiment mis à l'arrêt.
D'accord.
Et que pour moi, un pays mis à l'arrêt, ça voulait dire que il n'y avait plus d'école, déjà, ça c'était important. On a une petite fille de 5 ans, donc on est évidemment très sensible au fait que notre fille soit à l'école
scolaire,
ou pas, au rythme scolaire. Et donc là, évidemment, on s'est dit, si nous on ne travaille plus et que notre fille ne va plus à l'école, donc on va rester à la maison. Donc voilà, c'était difficile de se projeter, mais en tout cas, c'était l'idée de se protéger.
D'accord.
Dans un premier temps.
Alors, vous qui vivez avec votre famille au 8e étage d'un petit immeuble au sud de la Loire orléanaise, comment avez-vous vécu? Alors, vous me parlez de cette mise à l'écart, ce confinement, cette mise à l'abri. Vous avez même parlé, employé un terme violent d'abri presque anti-atomique. Voilà. Comment avez-vous vécu votre lien avec la nature durant cette période? Parce que quand on est dans un abri anti-atomique, on est complètement coupé de la nature.
Tout à fait. Oui, c'est vrai que on pourrait parler aussi des survivalistes, enfin, bon, c'est ce genre de personnages comme ça qui...
Donc, peut-être préciser pour nos auditeurs.
Oui, donc des personnes aux États-Unis qui s'habituent à vivre dans des conditions extrêmes, mais toujours dans cette idée de protection à l'égard d'une hypothétique, soit guerre, épidémie ou autre.
Attaque ou
attaque nucléaire ou autre, voilà. Et donc,
survivaliste.
C'est vrai que j'ai pas trop de problèmes avec cette idée de confinement au départ. Mmh. C'est-à-dire que on vit dans un appartement certes au 8e étage, ça c'est un peu compliqué, milieu urbain, un peu enfermé, mais l'appartement est clair, on n'a pas de problème, je dirais, de au niveau de la lumière ou même de l'éclairage, donc moi j'avais pas de problème avec ça.
Et entendiez-vous les oiseaux?
Voilà. Alors les oiseaux, pas complètement. Par contre, il y a un son qui était important pour nous, c'est le son du tramway.
D'accord.
Son du tramway qui est évidemment régulier, qui donne une sorte de rythme comme ça au bruit de la ville. Et le tramway, évidemment, passait beaucoup moins.
Mais passait.
Beaucoup moins. Et de fait, plus de voitures, plus de tramway pendant un certain temps, ou du moins un rythme beaucoup plus espacé. Mm-hmm. Ça, c'était le grand changement.
D'accord.
En effet. Mais je dirais que ce n'est pas l'aspect sonore qui m'a le plus marqué. C'est plutôt l'idée de l'espace. On avait un espace d'appartement pour vivre à la journée, et on avait un deuxième espace qui était l'espace du parking. Alors, ça peut être un peu idiot de parler de parking parce que généralement il y a des voitures sur les parkings, mais notre résidence est faite de telle manière qu'on a pu descendre avec notre fille tous les jours, donc sur ce parking qui était arboré. Donc un parking arboré, c'est des arbres, c'est de la pelouse. Et de fait, on n'a pas été coupé de la nature complètement.
Comme s'il y avait une sorte de jardin.
Voilà, une sorte de grand jardin, je dirais. Et puis, des enfants. Donc, le cri des enfants, c'est important aussi. Mm-hmm. Ça veut dire quelque part qu'il y a une sorte de vie sociale qui reste...
Qui continue.
Et donc, de fait, on avait ces espaces, l'espace fermé de l'appartement, et l'espace, je dirais, un peu de socialisation, on pourrait dire, qui est donc ce grand jardin, voilà. Peut-être la chose la plus dure, ou du moins qui, en termes de privation de liberté, ça a été ce laisser-passer, entre guillemets, qu'il fallait remplir, renseigner, donc, et avoir sur soi pour sortir de chez soi, ne serait-ce que pour aller acheter du pain, quoi. Ça, c'était vraiment peut-être le ressenti d'une privation de liberté le plus fort, quoi. C'est-à-dire que, d'autant qu'au début, on n'avait même pas le formulaire. Donc, on écrivait nous-mêmes sur papier blanc, voilà, sur papier vierge. Cet alinéa, ce texte de loi. Et ça, c'était vraiment un peu barbant de faire ça chaque jour pour aller faire quelques courses. Et après, on achetait le journal pour avoir, en effet,
le formulaire.
Le formulaire, un exemplaire. Et après, on collectionnait les formulaires pour en avoir un petit peu d'avance. Voilà. Et tout un jeu comme ça autour du laisser-passer.
Oui.
Là, on se rapprochait, je pense, un petit peu de ce qu'on appelait un peu le temps de guerre dont parlait le président français. Là, ça a été le plus marquant. C'était vraiment cette sorte de couvre-feu en fait qui avait été instauré
par
le papier, avec donc ces laissez-passer un peu pour activité vitale, quoi. Donc voilà, donc ça a été vraiment très très pesant. Les premières semaines ont été très lourdes et après ça s'est un peu calmé. On a réussi quand même à s'en libérer un peu en sortant un peu plus, quoi.
Alors on disait que les villes ont été vidées de la circulation intense et quotidienne de chaque jour, même si le tramway continuait à circuler, puisque même si la vie était arrêtée, il y avait quand même un certain nombre de personnes qui travaillaient.
Tout à fait.
En premier lieu, les soignants, et puis aussi toutes les personnes qui travaillaient aussi dans les magasins ouverts. Toute la vie ne s'est pas totalement arrêtée, même si c'est pour certains l'image qui en reste. Et donc, tout ceci nous a poussé finalement à avoir un nouveau regard, et j'aimerais savoir quel a été justement votre regard, votre perception, vous qui avez vécu dans les hauteurs, sur votre ressenti au niveau sonore au-delà de ce bruit du tramway.
C'est vrai que c'est peut-être un des sujets sur lequel j'ai peu d'anecdotes en mémoire. Au niveau sonore,
il y a un son, un bruit.
Il y a le son, alors peut-être le son assez étonnant de la réunion des personnes à 20h pour en soutien au personnel soignant, avec donc ces applaudissements spontanés, mais réglés à 1h. Voilà, on l'a fait pas régulièrement, mais on l'a fait un peu. Et c'était assez amusant de voir sur l'immeuble d'en face, donc des personnes aussi au 8e étage sortant applaudir. Voilà. Mais on n'était pas très nombreux, et à la différence de certaines personnes qui, dans les grandes villes, ont vécu des moments très festifs, musicaux ou autres. Nous, c'était quand même quelque chose de très, très sage, et c'était des applaudissements pendant quelques minutes. Et puis,
avec un certain détachement.
Voilà, il n'y avait pas vraiment, de dynamique.
L'acte en lui-même n'était pas forcément investi.
Non, il n'y a pas eu vraiment
un regard détaché avec
ce... Non, c'était pas différent de ce qu'on voyait souvent à la télévision. On nous montrait justement des moments un peu sympas, de gens qui improvisaient des concerts, des choses comme ça. Non, il n'y a pas eu cette dynamique-là. Donc, de fait, à part ce moment-là d'applaudissement, bon, qui plaisait bien à notre fille d'ailleurs, voilà, qui était assez amusant. Mais non, je crois que je ne retiens pas de niveau sonore, d'ambiance particulière.
Alors, on a parlé là de bruit, de son nouveau, peut-être de son redécouvert. Pourtant, ce fut aussi parfois le silence, et un silence oppressant pour certains et certaines d'entre nous, qu'il a fallu réapprivoiser. Et alors, avez-vous, vous, pour votre part, redécouvert le silence?
Oui, disons que je le cherche souvent, le silence. Et donc, de ce fait, la période du confinement a été intéressante pour moi, parce que j'ai peut-être cette appétence aussi pour les moments un peu suspendus, ou les moments
de calme
extérieur et intérieur également, d'ailleurs. Où finalement, avec un certain... l'envie de goûter aussi au temps qui passe, et le silence aussi qui accompagne ce temps qui passe. Donc, exercice intéressant, et bon, pour moi, ça n'a pas été quelque chose de mal vécu du tout, au contraire. Retour sur soi, un très intéressant. Voilà. Avec l'idée aussi que le confinement n'a pas été non plus une transition très forte entre l'avant et l'après. C'est vrai que dans certains quartiers où peut-être il y a du bruit, une forte circulation, certaines personnes ont ressenti vraiment un changement brutal. Pour nous, ça n'a pas été vraiment le cas. C'est-à-dire que nous ne vivons pas dans une zone très bruyante, on va dire, même si la circulation est comme souvent, mais voilà, il n'y a pas eu de changement marquant entre l'avant et l'après. Et plus visuel, c'était plus d'ordre visuel.
Oui.
Et perspective de rue.
Et ces temps de silence, donc vous dites que Justement, il y a eu des temps de silence pour vous, de redécouverte du silence et de temps de silence intérieur. Est-ce que vous nous parliez au début de ce petit temps passé ensemble, de cette ramette de papier blanc que vous aviez kidnappé à votre travail et emmené chez vous, a-t-elle été utilisée?
Ah oui, beaucoup, oui, tout à fait. La ramette de papier a été consommée. Alors bon, c'est vrai que on avait déjà un support d'activité tous les jours avec les exercices, je disais, scolaires pour ma fille. Donc beaucoup de dessins, d'écriture aussi, puisque c'était un moment aussi où elle a été un peu initiée à l'écriture. Donc le dessin, l'écriture, le découpage, voilà, donc la ramette de papier a été utilisée sous toutes ses formes possibles, et c'était vraiment très intéressant. Après, sur l'écrit lui-même, par rapport aux événements, c'était plus aussi l'ordinateur qui était omniprésent, puisque, comme chacun sait, le confinement était synonyme de visioconférence, de télétravail, donc de toutes ces formes virtuelles.
Nouvelles formes.
Virtuelles de travail, d'écriture. Voilà, donc,
utilisées de manière un peu systématique pour un grand nombre d'entre nous. Alors, un grand merci à vous, Gilles, d'avoir accepté d'éclairer notre regard sur les sons des villes au cours de ce printemps 2020. Et puissions-nous espérer que les uns et les autres nous saurons garder en mémoire tout le meilleur de cette parenthèse, somme toute assez violente, de par sa soudaineté. Bonsoir Gilles.
Bonsoir Anna.
Le coup de cœur du mois d'Anna et Sylvia dans Au fil des sons sur Prune 92 FM et en DAB+ sur Saint-Nazaire.
Notre coup de cœur de ce mois-ci se trouve à Saint-Nazaire avec la dernière œuvre du Voyage à Nantes, itinéraire d'art contemporain sur l'estuaire, commencé il y a 13 ans, et qui recense une soixantaine d'œuvres sur une trentaine de sites entre Nantes et Saint-Nazaire. Cela nous semblait une évidence de vous proposer une œuvre située à l'embouchure de l'estuaire de notre chère Loire, symbole des départs et des arrivées vers la Grande Amérique. N'oublions pas que Saint-Nazaire doit son développement à la construction navale et toute l'économie qui en découle.
C'est dans cet univers que notre coup de cœur, le pied, le pull et le système digestif de Daniel Devard et Grégory Jiquel, anciens élèves de l'école des Beaux-Arts de Nantes, pratiquant la sculpture à quatre mains depuis 1998, s'inscrit et vient achever cette aventure sur l'estuaire. Ces trois sculptures monumentales, atteignant jusqu'à 7 mètres, sont campées sur le sable et sur les rochers, dans l'espace que l'on nomme la pince de crabe, à deux pas de la place du commando à Saint-Nazaire, et sont plus ou moins immergées selon les marées. L'ensemble demeure à nos yeux assez métaphorique. On y a lu une évocation de trois états humains, notre nudité extérieure, notre intérieur et notre technologie, avec le pull comme une protection contre les adversités. Comme le serpent d'océan de l'artiste chinois Huang Yongping, de l'autre côté de l'estuaire à Saint-Brévin, ses œuvres se jouent des éléments naturels et, au gré des marées, se dévoilent différemment, multipliant ainsi les lectures que l'on peut en faire.
Le vendredi 25 décembre 2020, de la peinture rouge était présente sur les ongles du pied géant. Faut-il y voir une analogie avec la Marianne de Aubé, street artiste de renom située rue Nationale à Paris dans le 13e arrondissement, qui a été assortie de larmes et de sang par des anonymes venus prolonger l'œuvre d'art? Faut-il y voir une volonté de s'emparer de l'espace public par vous et moi? Et quelles sont les limites à poser dans ce domaine? Certes, nous n'avons pas de réponse, mais cela nous interroge sur cet espace public qui est à réinventer et dont les limites semblent actuellement être bien fragiles. Ce qui est à moi est à toi. La place du sacré en art semble être interrogée en ce 21e siècle.
Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Au fil des sons, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous tenons à remercier Miss Machine et Gilles d'Orléans pour le temps qu'ils nous ont consacré. Et bien sûr, un très grand merci à Jean-Pierre à la réalisation, sans qui cette émission n'existerait pas. Et également à toute l'équipe de Prune 92 FM, à qui nous adressons tous nos meilleurs vœux de bonheur pour cette nouvelle année. Vous pouvez réécouter l'émission en podcast sur www.prune.net.
On se retrouve le jeudi 11 février 2021, de 13h à 14h, pour une nouvelle émission de Au fil des sons, qui sera cette fois-ci consacrée à l'univers des insectes, annonciateurs des beaux jours, sur Prune 92 FM et en DAB+ sur Saint-Nazaire. à suivre la playlist. Bonne journée à tous.